Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Douzième joueuse mondiale à l'âge de 20 ans, Tatiana Golovin était considérée dans les années 2000 comme la relève d'Amélie Mauresmo, comme une future très grande. Mais une maladie du dos a brusquement interrompu sa carrière. 11 ans plus tard, et alors que la douleur est toujours là, Tatiana Golovin se bat aujourd'hui pour revenir sur le circuit professionnel. À mes côtés, Éric Brunat du service des sports du Parisien. Tatiana Golovin, née à Moscou le 25 janvier 1988. Elle arrive en France, à Lyon, avec sa famille quand elle a 8 mois. Et elle commence le tennis très jeune.
Oui, elle commence le tennis très jeune. Et très jeune, elle est douée, puisqu'elle intègre assez vite le pôle espoir de Franche-Comté. Lorsqu'elle est installée à Belfort, puisque donc il faut savoir que sa famille s'est d'abord installée à Lyon, où son père a été entraîneur de hockey, puis ensuite dans l'est de la France. Et très vite, elle est repérée par Nick Bollettieri. Nick Bollettieri, à l'époque, c'est le grand Manitou du tennis. Il a une académie en Floride, à Bradenton. Et toutes les plus grandes stars du tennis sont passées par chez lui, donc notamment André Agassi, Maria Sharapova. Et donc, il repère cette petite poupée russe et qui va rester 6 ans dans son académie et donc se former là-bas et devenir vraiment une excellente jeune joueuse.
Toute la famille déménage en Floride.
Le père, la mère et ses deux grandes sœurs, Olga et Oksana, et prennent un appartement à côté de l'académie pour la carrière de Tatiana.
Dans ce genre de centre d'entraînement, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était toute petite ?
Ça se résume en 3 mots, je pense. Tennis, tennis et tennis. C'est une académie, les méthodes Bollettieri, alors on va pas dire que c'était un peu des méthodes militaires à l'époque, mais c'était vraiment, on n'était pas dans le cadre un peu comme aujourd'hui des projets familiaux avec de l'éducation, du bien-être, de l'épanouissement personnel. C'était plutôt tennis, tennis, tennis.
Comment est-ce qu'elle commence sa carrière professionnelle ?
Sa carrière, on va dire, prend son essor en 2004, quand elle commence à percer à l'Open d'Australie, où elle atteint les 8e de finale. Elle a 16 ans, exactement, on commence à parler d'elle. On la compare assez facilement à l'époque à Anna Kournikova. C'était une des stars du circuit, une joueuse russe comme elle, née à Moscou, avec une plastique avantageuse, qui était très performante aussi. Donc on la compare un peu à cette Anna Kournikova qui était un peu une des stars du circuit. Et même Nick Bollettieri, donc l'entraîneur de l'académie, l'avait appelée Princesse Tatiana.
À quoi elle ressemble à ce moment-là, Tatiana Golovin ?
Elle est assez grande puisqu'elle fait 1m75, assez fine. Elle a surtout un énorme coup droit et elle n'a peur de rien. Elle a un sacré caractère. Alors certains pourront dire un mauvais caractère, mais elle a du tempérament.
Mauvais caractère, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Comment ça se voit ?
Ah, ça se voit pas simplement sur les courses, c'est plus dans un comportement général. Elle use quelques entraîneurs, elle est pas toujours patiente à l'entraînement. Elle veut avoir des résultats peut-être assez vite. À ce moment-là, elle n'a pas beaucoup de patience. Elle voudrait peut-être avoir des résultats plus rapidement, sachant qu'elle a déjà de très bons résultats pour l'époque. Et elle a un comportement à l'entraînement qui peut user les coachs.
Toujours en 2004, elle brille à Roland-Garros.
Oui, elle brille à Roland-Garros, alors on va dire peut-être par un biais détourné, mais en tout cas qui laisse un beau souvenir, puisqu'elle remporte le double mix avec Richard Gasquet.
Puis une satisfaction tout de même, c'est cette association inédite également entre Richard Gasquet et Golovin, 16 ans et 17 ans, pour s'imposer face au frère et à la sœur Black. Voilà, premier titre dans les entraînements du Grand Chelem pour ces deux-là. On espère vraiment qu'il y en aura d'autres.
C'est les deux jeunes. Gasquet, c'est celui que la France attend, celui qu'on avait, ainsi que Tennis Magazine l'avait surnommé. Donc c'est les deux petits jeunes qui gagnent le double mixte. On se dit que ça promet un bel avenir en simple, peut-être.
Et entre 2004 et 2008, elle continue de grappiller des places au classement mondial.
Oui, elle a une progression linéaire et en 2008, elle atteint le 12e rang mondial. Et là, on se dit que, et elle se dit aussi, que ce n'est qu'une étape vers les sommets.
Quel est son objectif à ce moment-là?
Ah ben, son objectif a toujours été clair, c'est d'aller le plus haut possible, gagner des grands chelems et être numéro un mondial.
Et là, tout le monde se dit que ça va être elle qui va prendre la place d'Amélie Mauresmo?
Tout le monde la voit prendre la suite d'Amélie Mauresmo, même les joueuses qui partagent l'aventure de Fed Cup avec elle à l'époque, avec qui j'ai pu encore discuter il n'y a pas longtemps, les Nathalie Dechy, Émilie Lois, donc qui ont joué avec elle, à l'époque n'avaient aucun doute. Pour elle, elle avait le moyen de gagner un, voire des grands chelems, et pourquoi pas atteindre le sommet.
En janvier 2008, à l'Open d'Australie, Tatiana Golovin, qui a 20 ans, se plaint de douleur au dos.
Elle se plaint pas tout de suite de douleur au dos, mais elle dispute un match contre Aravane Rezaï, donc une autre Française, qu'elle perd. Elle met ça sur le compte d'un peut-être un manque de préparation physique, puisque c'est le début de saison, c'est le mois de janvier. Avec la préparation foncière, on n'est pas forcément au top, donc elle ne s'alarme pas tout de suite. Ensuite, bon, elle sent quelques douleurs au dos. Elle tente d'aller jouer un tournoi aux États-Unis à Memphis où elle perd au premier tour. Et là, elle est vraiment gênée. Donc, elle va passer des examens et on lui diagnostique un kyste dans le dos, un kyste de 6 cm dans le dos. Donc, elle se fait immédiatement opérer. Elle en profite également pour se faire opérer de l'appendicite en même temps. Et elle est indisponible quelques mois.
Et après, donc, elle reprend l'entraînement?
Ensuite, elle reprend l'entraînement puisqu'elle a quand même de gros objectifs en 2008, notamment les Jeux Olympiques qui lui tiennent à cœur.
Les Jeux Olympiques de Pékin.
Et tarde à retrouver la forme, tarde à retrouver son niveau et va disputer en mois de mai. Elle part disputer le tournoi de Berlin.
Et là, comment ça se passe pour elle?
Le tournoi de Berlin, elle perd dès son entrée en lice contre Caroline Wozniacki. Donc Caroline Wozniacki qui, quelques années plus tard, va gagner un grand chelem et devenir numéro un mondial, pour l'anecdote. Et donc, elle perd contre Wozniacki. Donc là, évidemment, elle se rend compte que ses problèmes de dos sont de plus en plus importants. Et donc, elle prend une pause pour justement être au top au mois d'août et disputer les Jeux de Pékin.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite?
Elle ne verra jamais les Jeux de Pékin.
Et en fait, ce match contre Wozniacki aura été son dernier match professionnel?
Personne ne peut s'en douter à l'époque, surtout elle-même, mais ce match va être son dernier en 11 ans. Elle ne reviendra plus jamais sur le circuit, elle passe des examens, on lui diagnostique une spondylarthrite, c'est-à-dire, pour schématiser, une maladie qui touche la colonne vertébrale et le bassin, une espèce d'énorme rhumatisme qui occasionne des douleurs récurrentes, qui peut occasionner aussi des paralysies. Et à partir de ce moment-là, elle va tenter de continuer à s'entraîner pour essayer de revenir, mais on ne la reverra plus jamais sur le circuit.
Et comment est-ce qu'elle a le diagnostic?
Elle se réunit avec un aéropage de médecins qui lui explique, en gros, que pour la pratique du haut niveau, ça va être extrêmement difficile, voire impossible, que peut-être les traitements liés à la maladie peuvent occasionner des cancers, et qu'il y a des chances qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Donc immédiatement, elle fait le blocage sur les trois mots, tennis, cancer, enfant, se renferme dans une bulle et là, commence à cogiter.
Et qu'est-ce qu'elle se dit? Comment est-ce qu'elle vit ça? Comment elle gère cette période?
Elle la gère forcément très mal, puisque c'est quand même un rêve qui s'écroule.
Donc à ce moment-là, elle a 20 ans, elle a gagné 2 millions de dollars de gains en tournoi, elle était au sommet de sa carrière avec un très bel avenir devant elle, c'est ce qu'elle croyait, c'est ce que tout le monde croyait.
C'est un conte de fées qui s'achève, on peut le résumer comme ça. Et elle garde quand même, donc c'est pas un coup d'arrêt définitif, puisqu'elle garde espoir. Donc de toujours se dire, peut-être si c'est pas dans 6 mois, ça va être dans un an, et au fur et à mesure, le compteur tourne et jamais ne s'arrête.
Est-ce qu'elle annonce la fin de sa carrière?
Le mot retraite est un mot qu'elle n'a jamais prononcé et on en a discuté récemment lorsqu'elle a décidé de reprendre. C'était un blocage psychologique. Pour elle, elle n'avait pas arrêté parce que ce n'est pas sa décision, c'est la décision de son corps. Et donc, elle luttait quelque part contre son corps. Et il aurait fallu qu'elle ait le choix et qu'elle choisisse de dire « j'arrête ». À ce moment-là, elle aurait arrêté, elle aurait pris sa retraite comme font de nombreux joueurs. Mais le fait que c'est été contraint et forcé l'a empêché de prononcer le mot. Donc en 11 ans, elle n'a jamais prononcé le mot de retraite.
Et donc là, elle se demande ce qu'elle va faire de sa vie.
Il se trouve qu'à l'époque, elle fait la connaissance de Samir Nasri, donc qui est un footballeur et qui à ce moment-là va quitter l'Olympique de Marseille pour partir jouer à Arsenal en Angleterre. Ça lui fait découvrir un autre univers. Elle va le suivre et habiter à Londres. Donc elle essaie de se détacher aussi un peu de ce monde du tennis et en vivant peut-être par procuration, mais en faisant autre chose, en essayant d'oublier.
Et elle va commencer à travailler avec les médias comme consultante.
L'année suivante, en 2009, se rendant compte qu'elle ne joue pas, France Télévisions lui propose de venir commenter le tournoi de Roland-Garros, comme la chaîne le fait souvent avec les joueurs indisponibles ou blessés.
Pour l'instant, Tatiana, c'est une belle entrée en matière.
Oui, mais surtout que ça fait plaisir de le voir jouer comme ça, parce qu'on a beaucoup entendu parler de lui en disant est-ce qu'il a fait le bon choix en se séparant de son entraîneur ou pas.
Et c'est comme ça qu'elle va commencer son aventure à la télé.
Comment est-ce qu'elle vit ça, le fait de commenter les matchs des autres?
Au début, c'est un calvaire, puisqu'elle n'a aucune envie de parler des autres. Elle rêverait d'être à leur place. elle souffre de les voir jouer. Donc il lui arrive même parfois de quitter le plateau en pleurs parce qu'elle n'arrive pas à assumer la situation. Donc elle disait récemment en plaisantant que c'était totalement paradoxal d'être payée pour commenter des matchs alors qu'elle avait absolument aucune envie de le faire et qu'elle aurait eu envie de dire aux gens « mais éteignez la télé et ne les regardez pas jouer ».
Pendant cette période, Tatiana Golovin va devenir mère de deux enfants avec son nouveau compagnon, le rugbyman Hugo Bonneval. Elle fait aussi des publicités, des photos également, et elle va participer à une émission de patinage sur M6.
Pour moi, c'est important d'avoir Tatiana dans mon équipe. Elle a un mental de championne et un sens du show incroyable.
Après, pour moi, je pense que le plus important, ça sera le côté artistique, côté danse, côté dramatique, côté théâtral. C'est quelque chose que j'attends avec impatience.
Et c'est la première fois, donc depuis l'arrêt de sa carrière, où elle va vraiment faire du sport. Où elle va tenter de faire du sport à un haut niveau, entre guillemets, pour figurer dans cette émission. Donc peut-être pour pousser son corps un peu plus loin, voir de quoi il est capable, voir aussi l'évolution de la maladie. Donc c'est un palier pour elle.
C'est un peu comme un test aussi ?
Oui, c'est un peu comme un test, même si elle est loin à l'époque de revenir sur les cours. Alors elle le laisse s'entendre en disant « Ah ben peut-être si ça évolue bien, si je vois que dans l'avenir mon corps suit, pourquoi pas à 30 ans revenir dans le tennis ?»
Dans les années qui suivent, Tatiana Golovin en prend son parti. Elle s'installe comme commentatrice, comme consultante pour la télévision, notamment pour beIN Sport. Et en juillet dernier, elle couvre Wimbledon et là, il va y avoir un déclic.
Elle regarde jouer Serena Williams et se dit que finalement, à l'âge qu'a Serena Williams, en 36 ans, faire ce qu'elle fait, Tatiana Golovin n'a que 31 ans, donc peut-être que c'est pas infaisable de penser à un retour. Donc elle rentre dans la maison qu'elle occupe à Londres avec sa famille et leur dit « Bah tiens, j'ai envie de reprendre le tennis ». Donc ils sont peut-être pas plus étonnés que ça et lui disent banco. Elle en discute un peu avec Patrick Mouratoglou, donc qui a une académie dans le sud de la France, qui est un des grands entraîneurs du moment et qui est l'entraîneur de Serena Williams, qui lui dit vas-y si tu as envie fonce. Elle en parle ensuite à Thierry Champion, qui est le directeur du haut niveau à la Fédération française de tennis, à Pierre Chéret, qui est le directeur technique national et qui l'a entraîné dans ses jeunes années, et qui tous sont à fond derrière le projet.
Je pense que oui, il y a quelque chose dans la compétition, le fait d'être athlète, se dépasser, justement se faire mal, d'atteindre des objectifs. Je crois que ça, c'est quelque chose que finalement est ancré en moi et que je connais que ça finalement depuis que je suis très, très petite.
Et le 13 septembre, elle annonce son retour dans un communiqué. Là, qu'est-ce que vous vous dites ?
On se dit, mais quelle mouche l'a piqué ? Surtout que la veille, Kim Clijsters, donc la joueuse belge, qui est une ancienne numéro 1 mondiale, a annoncé elle aussi son retour, sachant que Clijsters a 36 ans et qu'elle est déjà revenue deux fois. Elle avait arrêté une première fois sa carrière, fait un retour où d'ailleurs elle a tout gagné, et ensuite arrêté une nouvelle fois en 2012. Donc là, on se dit, c'est la mode, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Et surtout, tout le monde a la même réflexion. 11 ans, c'est énorme. Le fossé est énorme.
Et qu'est-ce qui a changé au niveau de sa maladie ?
Au niveau de sa maladie, les techniques ont évolué. Donc on peut mieux soigner la douleur. Alors sachant que Tatiana Golovin ne suit aucun traitement lourd, ne subit aucune injection, elle ne veut pas arriver jusqu'à cette extrémité. Elle veut déjà voir jusqu'où physiquement elle est capable d'aller avec son entraînement actuel, qui n'est quand même pas celui de sa grande époque de joueuse. Et on arrive plus facilement à pallier la douleur aujourd'hui et on connaît mieux la maladie qu'il y a 10 ans. Elle ne sera jamais guérie, c'est une maladie qu'on a à vie. Pour le grand public, on peut dire que c'est comme une sorte de super arthrose. Et donc, une fois qu'on a de l'arthrose, on la garde.
Comment est-ce qu'elle fait avec la douleur ?
Elle attend, elle gère. Ce n'est pas une douleur qu'on peut quantifier. On ne peut pas savoir si ça va durer longtemps, pas longtemps, si ça va être tout le temps, pas tout le temps. Alors, la seule chose qu'elle sait, c'est qu'après un match, peut-être le lendemain ou 48 heures plus tard, elle va avoir des raideurs. Donc, peut-être qu'ensuite, de nouvelles pathologies peuvent arriver si elle devait répéter l'effort.
À partir du moment où elle se dit qu'elle va revenir, comment est-ce qu'elle fait concrètement pour reprendre l'entraînement ?
Elle prend contact avec certaines personnes de la Fédération française qui la soutiennent dans son initiative. Elle va commencer par, tout bêtement, partir en vacances dans le sud de la France avec ses enfants. Elle va taper une semaine tranquillement du côté de Bandol. Puis propose à la Fédération française de servir de sparring partner, c'est-à-dire de partenaire d'entraînement aux juniors si des juniors français en ont besoin. Donc elle se remet dans le bain comme ça en tapant contre les juniors.
Vous l'avez vue s'entraîner il y a quelques semaines. Elle ressemble à quoi aujourd'hui ces séances d'entraînement ?
Son entraînement, elle fait un entraînement de tennis par jour. parce que c'est largement suffisant par rapport à ses capacités et à son stade d'évolution dans son retour. Ce n'est plus évidemment les grosses cadences qu'on peut s'infliger à 20 ans ou à 10 ans quand on est même à l'Académie Bolettieri. Voilà, c'est des séances qu'elle fait avec Loïc Courtois, dont Loïc Courtois qui a été l'ancien entraîneur d'Amélie Mauresmo, qui a été en Fed Cup, qui est aujourd'hui le coach de Lucas Pouille et qui lui donne un gros coup de main pour son retour.
Le 12 octobre, au Luxembourg, elle joue son premier match professionnel après plus de 4000 jours d'absence et vous êtes sur place.
4177 jours exactement, c'est assez incroyable puisque depuis le monde a évolué à vitesse grand V. Donc c'était assez un côté lunaire de l'avoir sur un court de tennis. Surtout le décalage qui peut exister entre le tournoi qu'elle a disputé au moment où elle s'est arrêtée et celui qu'elle va jouer le jour où elle reprend. Passer du statut de numéro 12 mondial avec, où on vous reçoit avec les égards, le petit cadeau qui sied bien aux joueuses du top 10 ou du top 20. Et là, se retrouver à loger à l'hôtel du coin, je vais pas dire sordide, mais pas très gai, jouer dans un hangar d'un tournoi de seconde zone. Le décalage est saisissant.
Et comment elle est quand elle entre sur le court? Décrivez-nous-la.
Mesdames et messieurs, Tatiana Golovin, France.
Bon, elle est rentrée dans sa bulle 10 minutes avant le match, mais sinon, elle était totalement détendue, contente, un peu comme une gamine qui est heureuse d'être là, qui a retrouvé son jouet.
Comment se passe le match?
Bah, au début, c'est assez impressionnant quand même, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Elle a repris l'entraînement il y a un mois et demi. Elle décide d'aller jouer des matchs plutôt que de s'entraîner en se disant de toute façon faudra bien y retourner un jour, donc tant qu'à faire allons-y, mais on se dit forcément qu'elle va pas tenir la distance. Et en fait, dès les deux premiers points du match, elle fait deux points gagnants, donc c'est, on se dit tiens, c'est, ça va être intéressant à suivre, et elle arrive à développer vraiment un très beau niveau pendant une quarantaine de minutes. On est assez soufflé.
Elle joue bien pendant 40 minutes et après comment ça se passe?
Bah après forcément il y a deux aspects dans le tennis, trois on va dire, il y a le mental, le physique et la technique. Quand on a la technique, on va dire que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc techniquement, sans bouger, on peut arriver à frapper des coups et à retrouver un certain niveau et être assez efficace. Ensuite, il faut arriver à se mettre en mouvement, les appuis, les courses vers l'avant, les courses latérales. Et c'est là que ça devient plus difficile. Et c'est là aussi qu'il faut savoir avec l'âge gérer et peut-être gérer ses douleurs ou sa maladie. Donc pendant 40 minutes, Tatiana Golovin a été vraiment joué un match de bon niveau. Ensuite, évidemment, elle a été rattrapée par son physique. Et elle perd ce match.
Qu'est-ce qu'elle vous dit après?
À chaud. Elle est heureuse d'avoir quelque part réussi son pari, c'est-à-dire d'être allée rejouer un match de haut niveau et d'avoir repris le fil d'une histoire qui s'est arrêtée plus de 4000 jours plus tôt. Mais un quart d'heure après ou 20 minutes après, déjà la compétitrice a repris le dessus et elle commence à dire « je suis quand même pas revenue pour perdre tous mes matchs ».
Et elle dit en gros qu'elle veut persévérer.
Ah, elle a tout à fait l'intention de persévérer. Ben, de toute façon, ce n'est que le début de l'aventure. Elle a repris 6 semaines plus tôt et elle sait que le processus va être long.
Une dizaine de jours plus tard, Tatiana Golovin joue et perd un deuxième match à Poitiers. J'imagine que ça ne va pas l'arrêter?
Ça ne va pas l'arrêter puisque c'est le début du processus. Elle a quand même attendu assez longtemps. Elle ne va pas s'arrêter au début de cette nouvelle aventure. Donc elle a l'ambition de persévérer, de voir où ça peut l'amener. Sachant que de toute façon, elle n'a aucune pression du résultat. Contrairement à Kim Clijsters, dont on parlait précédemment, et qui elle est revenue en disant, en gros, qu'elle ne voyait pas pourquoi elle ne retrouverait pas le sommet parce que le tennis féminin n'avait pas totalement évolué depuis qu'elle s'est arrêtée. Tatiana Golovin n'est pas dans cet état d'esprit. C'est d'abord une démarche personnelle, une démarche quelque part psychologique, un deuil à faire. Donc, au-delà du résultat, elle va continuer si son corps lui permet.
Elle dit qu'elle revient aussi pour montrer un exemple à ses deux enfants.
Pour montrer à ses deux enfants qu'elle n'est pas simplement une ancienne joueuse qui peut vivre de son salaire de télé sans finalement faire grand-chose ou sans leur montrer grand-chose. Elle a envie de leur montrer ce par quoi peut-être elle est passée petite, c'est-à-dire le goût du travail, l'effort, leur montrer que pour arriver à quelque chose dans la vie, bah, il faut se donner les moyens. Et donc c'est un pari pour elle et aussi pour ses enfants.
Et revenir, rejouer des matchs de haut niveau, c'est déjà une victoire pour elle?
On disait qu'elle n'avait jamais prononcé ce mot fatidique de retraite, qui la retraite ça sonne vraiment l'arrêt. Et là c'est une libération de pouvoir se dire que ça soit demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, pourquoi pas dans 2 ou 3 ans, un jour je vais me lever et c'est moi qui dirai « je m'arrête ».
Merci à Éric Bruna, épisode conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Clara Garnier-Amouroux, réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource@leparisien.fr.